Bonjour et bon début de journée. Très belle matinée à vous. Bon réveil. Il est 8h, l'actualité, la météo, des cadeaux, plein de trucs à prévoir encore dans leur avenir.
Radio Chablais, suivez-nous. On vous suit.
Le journal Martine Wüstiner, bonjour.
Bonjour Cyril, bonjour à tous. L'assemblée primaire de Saint-Gingolph était convoquée hier soir à la salle polyvalente. À la quasi-unanimité, les Gingolais et les Gingolaises ont validé le budget 2025 déficitaire d'environ 290 000 francs proposé par le conseil communal. Dans un contexte particulier, le président de la commune, Gérald de Riva, estime que ce vote est un gage de confiance de la population dans le travail de restauration des comptes communaux. Pour rappel, un rapport avait indiqué en novembre que la commune de Saint-Gingolph n'avait pas encaissé tous les impôts depuis 2016. Cette tâche n'est pas l'unique priorité de l'exécutif pour la prochaine législature. Gérald Deriva.
Aujourd'hui, les priorités, c'est vraiment que les comptes qui doivent être autofinancés puissent l'être. Parce qu'aujourd'hui, l'absence de réglementation sur les comptes autofinancés fait qu'on accumule la dette. Et si cette réglementation n'est pas mise en place, on va augmenter la dette et ça va être insupportable pour les prochaines années. Peut-être pas l'année prochaine ou dans 2 ans, mais dans 4 ans, on va reporter le problème indéfiniment. Et pour une petite commune comme la nôtre, qui a peu de ressources financières, ça sera assez problématique après de faire face à un endettement massif.
C'était un sujet de Guillaume Abbé. La police cantonale valaisanne a annoncé aujourd'hui le démantèlement d'un réseau de trafiquants de drogue à Sierre. Actif depuis plus de 3 ans, ce réseau se compose d'une trentaine de personnes, dont des mineurs, impliqués dans la vente de plus de 2 kilos de cocaïne et d'une demi-tonne de haschich. Ces volumes inédits en Valais ont pu générer un chiffre d'affaires à la revente de plus de 4 millions de francs. L'enquête a également révélé une montée en puissance d'actes de violence. Christian Varone, commandant de la police cantonale valaisanne.
Ça c'est inquiétant, c'est ce qu'on dit toujours, hein. Il y a l'aspect stupéfiant qui fait des ravages chez les jeunes, hein, du point de vue de la santé naturellement, mais c'est surtout tout ce que ce monde des stupéfiants draine à côté, c'est-à-dire ces bandes organisées qui sont prêtes à agir, à mettre de la pression, à faire du chantage, de l'extorsion en usant de violence, hein. Souvent une violence qui est tout à fait gratuite, hein. Et ça c'est particulièrement inquiétant, c'est vraiment un phénomène qu'on ne connaissait pas par le passé et qu'il convient encore de combattre avec tous les moyens nécessaires.
Christian Varone répondait à Xavier Borgeot, a relevé que le ministère public ainsi que le tribunal des mineurs ont ouvert plusieurs instructions à l'encontre des différents protagonistes de cette affaire et des investigations complémentaires sont en cours. Les prévenus risquent plusieurs années de prison. Une nouvelle exposition a fait son apparition samedi dernier au Fort de Chillon. Elle présente les Che Guete, ces personnages inquiétants, emblématiques de la vallée du Lutschental dans le Haut-Valais. Il s'agit là de masques en bois qui sont portés par les villageois en période de carnaval et prêtés par le musée du Lutschental. Christophe Doram, directeur du Fort de Chillon.
On en a 21, on a également plusieurs visuels qui représentent bien les Che Guete. Il y a également un film que le musée du Lutschental nous a prêté et qui présente en fait cette tradition. Les masques, il y a plusieurs styles, il y a des masques qui sont plutôt des masques qui sont portés et des masques qui sont plutôt décoratifs, donc les portés sont creux à l'intérieur, les décoratifs sont pleins.
Des propos recueillis par Léa Journeau, l'exposition est à découvrir jusqu'au 2 mars prochain au Fort de Chillon. Les coûts de l'aide sociale ne sont pas trop élevés en Suisse. C'est du moins l'avis du secrétaire général de la Conférence suisse des institutions d'action sociale. Selon lui, les dépenses dans ce domaine ont diminué depuis 2019. Ni la pandémie de Covid-19, ni la crise des réfugiés de 2015 n'ont conduit à l'explosion des coûts tant évoqués. Une première étape est franchie vers une libéralisation du cannabis en Suisse. La commission de santé publique du Conseil national a élaboré un projet de loi sur les produits cannabiques et elle l'a adopté vendredi par 14 voix contre 9 et 2 abstentions. L'objectif est de réguler la culture, la fabrication et la vente de cannabis de manière très stricte. La loi mise d'abord sur la santé publique et la prévention. Ce qui satisfait Barbara Broers, médecin et vice-présidente de la commission fédérale pour les questions d'addiction, car ce modèle est très différent de ce qu'on connaît pour l'alcool et le tabac.
Ce projet ne va pas du tout être dans une facilitation de la vente, hein, de promotion. Hein. De nouveau, c'est possible, mais ce n'est pas promu. Et là, on a vu que la vente, elle est soumise à un monopole étatique, avec de nombre limité de points de vente, avec des horaires réduits, avec du personnel formé, avec une absence de but lucratif. une absence, bien sûr, de publicité, très, très important. Donc, on voit déjà que c'est un modèle très, très différent par rapport à l'alcool et le tabac.
Des propos recueillis par notre correspondante à Berne, Marie Vuillemier. La commission du Conseil national va maintenant rédiger un rapport pour accompagner son projet de loi et organiser une large consultation. Le nombre de demandes d'asile déposées en Suisse en 2024 s'est monté à 27 740, soit un recul de 8,2% par rapport à 2023. La Confédération a réduit d'un quart le nombre de demandes en suspens, qui se monte désormais à près de 12 000 dossiers. La majorité des demandes sont déposées par des personnes d'origine afghane. Au moins 14 personnes sont mortes et plusieurs autres sont portées disparues dans l'est des États-Unis, ont annoncé hier les autorités locales. 12 décès ont été enregistrés dans le seul état du Kentucky, qui fait face à de graves inondations depuis plusieurs jours. Une tempête mêlant vent violent, inondations, fortes pluies et bientôt températures glaciales qui avoisineront les moins 51 degrés Celsius a touché plusieurs états de l'est américain. Et en sport, la salle du Pierrier de Clarens fera une nouvelle fois le plein en cette fin de semaine pour le top 16 européen de tennis de table. La compétition, organisée pour la 7e fois consécutive sur la Riviera, offrira entre jeudi et dimanche un plateau très relevé, composé entre autres des deux frères Lebrun et du Suédois Truls Morgaard, médaillé d'argent à Paris à l'été 2024. Depuis ces JO, le président du comité d'organisation du top 16, Philippe von Beust, a remarqué un intérêt grandissant pour le tennis de table.
On le voit clairement sous deux différents angles. La première, c'est que vous, les médias, vous vous intéressez beaucoup plus au tennis de table. On a la chance d'avoir une couverture en direct pour certains matchs sur l'Aimant Bleu, sur la RTS, sur Eurosport, l'équipe TV. Donc on a vraiment une couverture télévisuelle, médiatique, qu'il n'y avait pas les autres années. Donc là, on voit qu'il y a véritablement un effet post-Jeux Olympiques. Et puis, on le voit également, alors ça c'est un petit peu plus en coulisses, j'ai aussi la tâche d'être président de l'association Vaud-Vallée-Fribourg, et on voit aussi dans les clubs qu'il y a de plus en plus de joueurs licenciés, qu'il y a de plus en plus de monde qui arrive dans les clubs. Et ça, véritablement, c'est aussi un plus pour notre sport.
Des propos recueillis par Thierry Nicolet. À noter que 2 Suisses ont été invités à prendre part à la compétition. Il s'agit de Rachel Moret chez les femmes et de Sheitaina Veipa chez les messieurs.
Merci Martine. Tout à l'heure, 9h.
À tout à l'heure.
Ciao.